Info, musique, dédicace, coup de cœur, témoignage, sortie, découverte et plus.
Bonjour Strasbourg, bonjour Neuf, bonjour Stockfeld. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez ce matin dans Liés et Reliés, une émission portée par le média Les Défricheurs et ses partenaires. À travers ce rendez-vous radiophonique, découvrons les initiatives positives portées par les habitants et acteurs qui font vivre le quartier du Neuhof. À l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école, nous sommes allés à la rencontre des collégiennes et des collégiens pour leur donner la parole. Ce matin, nous sommes donc en direct depuis le collège Stockfeld de Neuhof pour une émission inspirante, positive et ludique. Au programme, nous aborderons avec nos invités le thème du droit de vote, la participation citoyenne des jeunes et les nouvelles manières de faire vivre notre démocratie. À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, nous vous proposons un moment pour réfléchir ensemble à cet exercice citoyen qui est le suffrage universel. Voter, pas voter, pour qui, y a-t-il trop de candidats, pas assez, comment donner du sens au vote, comment renforcer l'apprentissage de la démocratie dès le plus jeune âge et comment les jeunes s'intéressent-ils à la vie politique. Et tant d'autres questions qui seront explorées avec nos divers invités. Et pour nous accompagner, nous avons nos 3 jeunes reporters du jour. Robin à la technique, moi-même Kevin à l'animation, du moins passage de parole, pour animer ce moment de radio porté par les défricheurs. Restez avec nous, vous êtes dans Liés et Reliés, un temps de radio qui rapproche et rapproche.
Liés et Reliés, l'émission pour se reconnecter aux autres.
Et pour commencer, nous allons avoir en visio Guillaume Lipsig, membre du bureau de l'ANASEJ, adjoint au maire en charge de la vie associative et l'animation urbaine de la ville de Strasbourg.
Et de la politique jeunesse.
Et rien de tel qu'un jeune pour poser des questions sur la jeunesse. C'est HM qui ouvre l'interview.
Bonjour, quelle est la mission de l'ANASEJ ?
Bonjour. Alors l'ANASEJ, en fait, c'est un regroupement d'acteurs qui existe depuis plusieurs années maintenant. Au début, c'était extrêmement centré sur le fait d'implanter des conseils des jeunes dans les villes. Au fil du temps, c'est devenu un interlocuteur privilégié pour tout ce qui est les démarches de participation de la jeunesse aux décisions, aux politiques. Et l'ANASEJ, c'est donc un réseau qui regroupe actuellement énormément de grandes, moyennes, petites villes, mais aussi des départements, des régions. Et c'est un des seuls réseaux qui aussi intègre tout ce qui est départements et territoires d'outre-mer.
D'après la dernière enquête de l'ANASEJ et de l'IFOP, quelles sont les tendances chez les jeunes concernant le vote ?
Alors, l'ANASEJ, en fait, demande donc à l'Institut de sondage de l'IFOP de faire cette enquête depuis plusieurs années maintenant. Donc, le premier intérêt pour nous, c'est de voir l'évolution des tendances. Et effectivement, l'enquête a été refaite cette année sur un échantillon de 1500 jeunes de mémoire. Et les tendances, elles sont pas bonnes, hein. On sait qu'on est sur un cercle vicieux depuis plusieurs années sur un défaut de participation de la jeunesse et un éloignement de la jeunesse du fait électoral, des urnes, du vote. Et il y a actuellement, on va dire, trois nouveautés qu'on a observées et qui nous questionnent fortement. La première, c'est qu'il y a une baisse des discussions en interne avec les amis, avec la famille, autour de la politique. On n'en parle plus. On regarde des choses à la télé, sur les réseaux, mais il n'y a plus de débat. Et en fait, on ressent cette absence de débat dans ce qu'on appelle la polarisation des débats. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question avec laquelle on n'est pas d'accord, tout de suite, les gens pètent un câble et deviennent très agressifs. Parce qu'on est convaincu qu'il n'y a qu'une seule vérité, que c'est la nôtre et pas celle des autres. Donc, l'absence de débat, elle est vraiment très questionnante. Et donc, tout ce rôle, en fait, que la famille et les amis avaient tend à disparaître. Le second sujet, c'est qu'il y a une montée de l'acceptation de la violence et de la révolte chez les jeunes qui, se sentent plus du tout représentés, ne savent plus par quels moyens se faire entendre et la violence et la révolte deviennent de plus en plus acceptables dans l'esprit des jeunes. La troisième, qui est un peu peut-être la cause aussi de la précédente, c'est que les jeunes ne retrouvent pas leurs idées dans les programmes politiques. Il n'y a pas de représentation de leurs idées dans ce que les différents partis politiques portent aux élections.
Comment expliquez-vous que les jeunes n'aiment pas ou ne veulent pas voter ? S'agit-il d'un signe de l'essoufflement de notre système démocratique ou plutôt que la jeunesse préfère d'autres manières de s'engager en dehors de la politique ?
Alors, les deux peuvent être vrais. sur l'essoufflement et l'éloignement des jeunes du système démocratique, ben, le fait d'avoir une bonne relation positive, c'est le 50-50, la réciprocité et le fait de, dans une démocratie, de représentation, de représentativité, d'être représenté. Et les jeunes, les jeunesses dans leur diversité, n'ont pas ça actuellement avec notre système démocratique. Il y a un effet très calcul dans une élection où, en fait, on parle aux gens qui votent. On parle aux gens qui vont nous donner leur voix. Et de fil en aiguille, avec ce cercle vicieux qui a pris plusieurs dizaines d'années, les politiques ne parlent plus aux jeunes parce que les jeunes ne votent pas. Les jeunes ne parlent plus aux politiques parce que, du coup, ils ne se sentent plus représentés et, du coup, ils ne votent pas. Et donc, il y a vraiment une dynamique toxique qui s'est mise en place où on préfère parler aux chasseurs, aux retraités, aux entreprises, mais on a d'autres bassins de population où on sait que ça vote et que du coup, ceux qui ne votent pas ne sont pas intégrés dans le débat de l'élection. Donc oui, il y a un essoufflement de ce côté-là et je pense que pour y répondre, il faut qu'on refasse un pas l'un vers l'autre et qu'on remette un peu les choses à plat et qu'on recrée ce dialogue. Mais ça, c'est des choses que tout le monde dit depuis 15 ans et personne ne le fait. Donc maintenant, il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire. Et après, sur l'engagement de la jeunesse, oui, mais dans des engagements qu'on a un peu aussi du mal à suivre parce que les associations, les jeunes n'y vont plus parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans une démarche qui peut prendre du temps. Il faut faire des réunions, il faut faire des comptes rendus, il faut réfléchir. Il y a un truc où on veut de l'immédiat, où on veut tout de suite faire quelque chose. Et il y a plus un recours à la notion de collectif. C'est-à-dire un collectif, c'est un groupe où il n'y a pas de contrat, où il n'y a pas de locaux, où il n'y a pas d'adhésion, on ne doit pas payer une inscription. On est juste là pour dire « Ok, je veux coller une affiche sur un mur, ben je vais coller une affiche sur un mur. » Ou « Je suis là pour donner à manger aux gens qui en ont besoin, donc je donne à manger aux gens qui en ont besoin. » Le problème de cet engagement, c'est qu'il y a un souci sur la formation et sur le dialogue. Nous, en tant que ville, en tant qu'institution, on ne peut pas aider ces gens, on ne peut pas leur donner d'argent, on ne peut pas discuter avec eux, les autoriser, leur dire comment les choses fonctionnent pour faire une manifestation, des choses comme ça. Et de l'autre côté, ça ne s'improvise pas de faire de la solidarité. C'est un métier, il faut une formation. On ne peut pas juste aller dans la rue et donner quelque chose à quelqu'un. On ne sait pas quel est son parcours, on ne sait pas quel est son besoin réel, on ne sait pas s'il est suivi par ailleurs. Enfin, il y a vraiment un besoin de d'être investi, en fait, dans ses engagements. Et faut se méfier un peu de ces trucs très effets de mode. Je donne un exemple concret et je vais terminer avec ça. Il y a eu un effet de mode autour des maraudes. Et donc, on a à Strasbourg énormément d'acteurs qui font des maraudes déjà, qui font ça très bien. Mais ensuite, avec les réseaux sociaux, il y en a plein qui se sont dit « bah c'est sympa, j'ai envie de faire pareil ». Et du coup, on a eu des maraudes à roller, on a eu des maraudes déguisées, on a eu des maraudes pour faire des photos sur Instagram. Mais c'est des maraudes qui ne comprennent pas le fonctionnement global des choses, savoir si la personne, il y a une autre maraude qui tourne le même jour et ainsi de suite. Et vraiment, il y a un besoin de structuration, en fait. Dans l'engagement de la jeunesse.
Que pensez-vous du vote à 16 ans ?
Alors, au niveau de l'ANACEJ, on est plutôt pour, mais ça pose la question de la responsabilité, de la compréhension, de l'intégration. Voilà, mais un des objectifs très importants et très intéressants pour ce vote à 16 ans, c'est le développement de la notion de responsabilité du jeune, déjà, qui s'engage dans un parcours personnel responsabilisant un peu plus tôt que prévu, avant ses 18 ans. Actuellement, dans l'évolution des jeunesses, c'est tu vas à l'école, tu passes ton bac, t'es 18 ans, tu deviens majeur, et ensuite tu vas travailler, t'es responsable. Et il y a un truc très on-off du jour au lendemain où on dit c'est bon, t'as 17 ans et c'est fini, maintenant t'as 18 ans, t'es majeur, t'es responsable. Mais il n'y a pas d'apprentissage de la responsabilité. Dans les parcours personnels de développement des jeunesses, il y a des éléments qui aident à développer et à s'entraîner à être responsable, le BAFA, le service civique, plein de sujets un peu comme ça. Et vraiment, c'est des choses qu'on encourage et ça peut pas être juste le vote à 16 ans pour voter à 16 ans. L'autre aspect, c'est que ça encouragerait peut-être les partis politiques à aller discuter plus avant avec les jeunes et pas juste les considérer comme des personnes majeures qui ont passé 10 ans qui ont leur carte de vote. Donc, il y a vraiment un enjeu pour est-ce que ce vote à 16 ans, il permet de renouer ce dialogue dont on a besoin entre les jeunes et les politiques.
Vous participez à la vie politique de la ville de Strasbourg. D'après votre expérience, qu'est-ce qui donne du sens à la politique ?
Le dialogue, l'engagement. Dans le rapport qu'on a à la politique, on est souvent là pour entendre et recevoir les problèmes et les demandes des gens. Et il y a un truc sur, voilà, je suis malade, j'ai un problème avec mon appartement, j'ai un problème avec le bus, avec le tram, j'ai un problème avec l'école, j'ai un problème avec l'arbre, j'ai un problème avec le parc, j'ai un problème avec la voiture, j'ai un problème avec la route. Et donc, en tant qu'élu, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on essaie de trouver des solutions. On aimerait bien aussi recevoir de temps en temps des suggestions, des idées, des propositions. Et c'est aussi cette proposition positive qui participe à l'engagement. Le but des attentes, en fait, ce qu'on a vu aussi avec l'enquête IFOP, c'est que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas aux élections parce qu'ils attendent d'une élection et d'une personne élue qu'elle change les choses, qu'elle transforme les choses. Faut savoir qu'une institution, une ville, une région, un département, c'est la garantie de la continuité de la stabilité. C'est s'assurer qu'il y ait toujours des routes, toujours de l'électricité, toujours à manger, toujours de la santé, toujours de l'éducation. Et les jeunes, en fait, ils attendent du changement. Donc, on est dans une époque où il y a beaucoup de changements qui sont attendus sur la solidarité, sur l'écologie, sur le travail, sur plein de choses. Et du coup, pour répondre à cette question, ben, moi, j'ai envie de dire, ben, rejoignez-nous pour nous aider, non pas juste à régler les problèmes, mais aussi à faire changer les choses.
D'accord. Pour conclure votre réflexion, pour que la jeunesse soit plus concernée par la démocratie, il faut l'intégrer un peu plus dans le système démocratique, plus discuter avec elle et plus prendre en compte de son écoute et la faire participer, en fait.
Il y a de ça, mais ça, c'est facile à dire. Le problème, c'est qu'actuellement, la jeunesse, quand vous regardez, elle est souvent considérée comme un problème, comme une menace, comme une population à part qu'il faut insérer, qu'il faut aider. Et il n'y a pas une notion de considération de la jeunesse pour son énergie, son inventivité, ses besoins. Et il y a un rapport très méfiant, défiant par rapport à la jeunesse. Donc, il faut déjà repositiver ce rapport, se dire que la jeunesse est une force, les jeunesses sont un potentiel, et il faut vraiment déjà partir de ça. Et il faut donner envie aux jeunes de participer, parce que oui, il y a des attentes qui sont les leurs, qui ne se retrouvent pas dans ce que font des élus au quotidien. Et on a très peu de jeunes, en fait, qui s'intéressent, qui demandent à faire des stages pour voir un peu ce que c'est le quotidien de l'élu, des services, des agents. Voilà, on se regarde de très loin et on se comprend plus. Donc, il faut déjà se rapprocher, il faut qu'on ait à nouveau les mêmes définitions pour les mêmes mots. Et ensuite, à partir de là, on peut nouveau avancer ensemble.
D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Monsieur Lipsic, et à bientôt.
Lier et relier, l'émission pour se reconnecter aux autres.
Après cette première interview, nous passons avec Lina Kiligian de Tous Élus. Alors, c'est un mouvement citoyen qui se présente comme indépendant de tout parti politique et qui vise à redynamiser la démocratie en France. Je laisse la parole à notre journaliste du jour, Anneli.
Bonjour Lina. Votre devise Tous Élus, ça veut dire quoi exactement ? Peut-on réellement être tous élus ?
Bonjour. Alors en fait, la devise, c'est aussi le nom de l'asso. C'est parce que l'association, elle a été créée en 2018 avec l'idée de base, la volonté de permettre à tout le monde de se présenter aux élections. Donc le fait d'être député, d'être maire, on voulait absolument faire en sorte que ça puisse être accessible à tous. Alors dans les faits, on ne peut pas être tous élus parce qu'il y a des conditions d'éligibilité en France, par exemple, il faut avoir plus de 18 ans, il faut avoir la nationalité française pour les élections présidentielles, par exemple. Voilà. Donc, il y a des conditions qu'on ne peut pas franchir. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est permettre à ceux qui remplissent ces conditions, mais qui n'oseraient pas se présenter, pour mille et une raisons, de pouvoir le faire.
À quoi ça sert de voter ?
Voter actuellement, c'est quand même la plus grande opportunité qu'on a et qui nous reste d'exprimer notre avis. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet de dire si on est d'accord ou pas. Et le fait de ne pas voter, d'ailleurs, est aussi une façon de s'exprimer.
Tous Élus a lancé la campagne Tous Inscrits pour aider les gens qui sont mal inscrits sur les listes électorales. Comment ça marche ?
Alors déjà, il faut savoir qu'en France, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Donc, en gros, quand on habite à Strasbourg, normalement, on est inscrit à Strasbourg pour voter dans un bureau de vote bien précis à Strasbourg. Quand on est mal inscrit, ça veut dire qu'on habite à Strasbourg, mais qu'en fait, on est inscrit à Paris. Et en France, on ne peut pas voter dans un... C'est-à-dire, je ne peux pas voter à Strasbourg si je suis inscrite à Paris. En fait, en France, actuellement, il y a 7 millions de personnes qui sont touchées par ça. C'est-à-dire qu'il y a 7 millions de personnes en France qui n'ont pas leur bureau de vote au bon endroit. Donc, c'est autant de gens qui peuvent ou ne pas... qui peuvent ou pas voter, selon s'ils se déplacent. Et en fait, quand on est jeune et qu'on a beaucoup de mobilité, par exemple, c'est assez facile. Bon, on prend un train et en Corse, ça peut être embêtant, mais il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent pas, du coup, parce que c'est plus ou moins loin de chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas, etc. Et donc, nous, notre objectif, c'était de permettre à tous ceux qui le souhaitent de changer leur bureau de vote, de le faire passer de Paris à Strasbourg ou de Rennes à Strasbourg, etc. Et ce, facilement. Et c'est une procédure administrative qui peut être assez compliquée pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, d'utiliser France Connect, par exemple, pour se connecter sur les sites administratifs français. Et donc, nous, on a créé un Zoom qui, en 15 minutes... permettait à tout le monde de changer son bureau de vote de place. Et le concept, c'est que c'était accessible à tout le monde, on pouvait venir sans documents, etc. On pouvait venir les mains vides, et en 15 minutes, c'était bon.
À chaque élection, l'abstention est toujours plus importante. Pensez-vous qu'il faudrait rendre le vote obligatoire ?
À titre personnel, je ne pense pas, parce que c'est pas en forçant les gens à aller voter qu'on va leur donner envie de voter. Le fait de ne pas aller voter, pour l'instant, ce qu'on appelle l'abstention, ça reste un moyen d'expression de nos jours, puisqu'en fait, le vote blanc, j'ai vu que vous aviez une question là-dessus au tableau, on va peut-être en reparler après, le vote blanc, il n'est pas reconnu en France. Donc, quand on n'est pas d'accord avec le choix qu'on a en face de nous, les différents programmes et les candidats, le fait de ne pas aller voter actuellement, c'est dire aussi, je ne suis pas d'accord avec les propositions et du coup, je ne vais pas venir. Ça reste un moyen d'expression pour beaucoup de personnes. Donc actuellement, rendre le vote obligatoire sans reconnaître le vote blanc, sans donner d'autres moyens d'expression à ces personnes qui ne sont pas d'accord, c'est nul. Et en plus de ça, on voit dans les pays qui ont rendu le vote obligatoire qu'en fait, en contrepartie, c'est une amende. Donc on paye une amende, en gros, pour ne pas aller voter. C'est un système qui, encore une fois, permet à certains... de ne pas aller voter, puisque bon, pour certains, payer 130 euros pour ne pas aller voter un jour, bah, ce n'est pas très grave. Et puis pour d'autres, 130 euros, c'est énorme.
Quels moyens proposez-vous pour sensibiliser les citoyens à la démocratie ?
Avec l'association Tous Élus, on a 3 champs d'action. On veut mobiliser, sensibiliser et former. Donc la mobilisation, c'est ce qu'on fait avec nos campagnes. Par exemple, la campagne Tous Inscrits dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis la campagne dont on va parler après qui est Dimanche, je vote. Donc l'objectif, là, c'est de rassembler un maximum de personnes qui sont avec nous et qui sont prêts ou alors à s'inscrire sur les listes électorales ou alors à faire une fête du vote, etc. Ça, c'est la mobilisation. C'est le fait de vraiment s'entourer de monde avec d'une énergie positive, etc., pour faire du bruit. On a aussi, deuxième pilier, la sensibilisation. La sensibilisation, on fait ça via des ateliers. Donc, en fait, nous, on fait des prestations. On va dans des mairies, on va parfois dans des entreprises, etc. Et en fait, on a des jeux. On a créé des jeux qui peuvent se jouer donc avec des citoyens, si c'est en mairie, ou dans des groupes, dans des petits groupes, si c'est une entreprise. Et c'est des jeux, par exemple, on en a un qui s'appelle le jeu de la dernière élection. C'est des jeux qui sont tous un peu informatifs. Voilà. Donc, on apprend en même temps qu'on joue. Donc, ça, c'est la sensibilisation. Et la formation, c'est parce qu'on a créé une école politique où, en fait, pendant 2 mois, on forme n'importe qui à se présenter aux élections. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la formation « Pourquoi pas toi ?» puisque c'est vraiment, voilà, tu peux te présenter, toi aussi. Bon, c'est pas pour tout de suite pour vous, mais voilà, l'objectif, c'est de donner les codes à ceux qui ne l'ont pas. Donc, autant les codes type « prendre la parole en public », parce que c'est pas accessible à tout le monde. En fait, on voit que dans certains types d'études, par exemple, les gens qui font Sciences Po ou qui font HEC, qui font des études longues, on produit beaucoup de travail qui forme à la prise de parole en public. Mais en fait, dans beaucoup d'autres formations, on l'apprend pas. Et c'est des codes qui sont obligatoires. Ou alors, on apprend aussi dans notre formation comment... Ok, je veux faire campagne, d'accord, mais comment je me finance? Est-ce que je dois absolument avoir un parti? Comment ça marche? Donc, toutes les questions pratiques aussi. Donc, ça, c'est nos trois piliers.
Dernière question, qu'est-ce que la fête du vote?
Donc, la fête du vote, c'est notre prochaine campagne qui s'appelle Dimanche, je vote. Et l'objectif, c'est d'inciter à aller voter de manière festive. Donc, on ne veut pas... mettre une pression négative sur les citoyens. On veut représenter le vote comme un acte festif. Donc, le dress code, c'est rose, paillettes et ballons. Et c'est une balade qui a lieu les jours du vote, donc le 10 et le 23. Pour l'instant, on voit le 10 et puis on verra comment on s'organise pour le deuxième tour. Et en fait, le 10, l'objectif, c'est de se balader dans Strasbourg ou dans plein d'autres villes et de rappeler aussi à ceux qui souhaitent voter, qui peuvent le faire, que c'est aujourd'hui, que tout le monde peut aller voter avec juste sa carte d'identité. On fait toujours de la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin de la carte électorale pour aller voter, alors que non, on peut voter avec sa carte d'identité. On proposera aussi une aide pour ceux qui ne savent pas où se trouve leur bureau électoral. Voilà, donc c'est de la sensibilisation, et en même temps, on aide toujours ceux qui souhaitent à se rendre à leur bureau de vote.
En tout cas, c'est des initiatives très, très motivantes hein, pour justement aller voter. Merci pour votre engagement en faveur de la démocratie locale.
Merci beaucoup.
Eh bien, nous arrivons au moment de l'agenda des acteurs du Neuf et d'ailleurs. Alors, 5 petites animations pour commencer. Tout d'abord, la médiathèque du Neuf organise le spectacle Les Hôtes des Arbres le mercredi 6 avril à 15h. Inscription ouverte à partir de 6 ans. 25 avril, l'espace Django accueillera le spectacle pour enfants Dundu Fololaz de Baka Trio. L'association Focal organise une projection sur le métier de gardien d'immeuble, un métier méconnu, chez Ophéa, le 8 avril à 15h à la MIDE. Le Résu organise un kilo shop, une vente de vêtements au kilo, le 16 avril de 9h à 13h. Et enfin, si vous aimez la musique classique, le mercredi 27 avril à 14h30, un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg aura lieu à l'espace Django. C'était l'agenda des acteurs du Neuf et d'ailleurs...
Lier et relier, l'émission pour se reconnecter aux autres.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours dans Lier et relier, une émission qui fait du bien et génère du lien. Toujours en direct depuis le collège Stockfeld dans le quartier Neuf à Strasbourg. Notre objectif ? Mettre en avant les initiatives locales et l'engagement citoyen. Et après avoir écouté Tous élus et la Nassège, nous allons entendre l'interview de Mieux voter, représentée par Pierre-Louis Gur. Bonjour Monsieur Gur.
Bonjour Kevin.
Notre prochain invité est chercheur au CNRS, membre de l'association Mieux voter. Et oui, les sciences s'invitent aussi aux élections pour proposer une autre manière d'élire les candidats.
Alors, peut-être juste une précision, c'est que je ne suis pas affilié au CNRS, mais c'est juste un détail.
D'accord, merci de la précision. Je cède la parole à Younes.
Choisir un candidat n'est pas facile. Regarder le programme ne suffit pas. Comment mieux voter? Quelle solution proposez-vous?
Merci pour la question. Alors déjà, je voulais reprendre un petit peu sur... votre question, elle est un peu en lien avec ce que M. Lipzig a dit en début d'émission, dans le moment où il a fait le point sur plusieurs problèmes de notre démocratie. Et ça, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on ressent un manque de représentativité. C'est-à-dire, on a l'impression, typiquement pour les jeunes, qu'il y a peu de politiciens qui viennent vraiment nous parler de nos problèmes du quotidien, que nos idées, par exemple sur l'écologie, sur la démocratie, ne sont pas dans leur programme. Et puis, différents groupes comme ça aussi, les banlieues, la campagne. Bref, il y a un manque assez clair de représentation. Et deuxième point que M. Lipzig avait soulevé, c'était que les débats sont en train de baisser et finalement, on obtient plus de polarisation. On a du mal à un peu dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Les débats sont beaucoup plus tendus. Nous, dans Mieux voter, on part du coup de ce diagnostic, c'est que il y a quelque chose qui cloche un peu dans notre démocratie, dans la manière dont on la vit et dans la manière dont les élections se produisent. Et ça, moi, en fait, on dit que c'est quand même très très grave, parce que si jamais on n'a plus de le socle démocratique, là, finalement, on se casse. On va pas réussir à attaquer tous les problèmes suivants. Sans démocratie, on va pas réussir à s'attaquer aux problèmes sociaux, aux problèmes écologiques, aux problèmes régaliens. Bref, tous les problèmes que la société peut se poser. doivent être répondues par des questions démocratiques. Et donc, du coup, au sein de notre association Mieux Voter, nous, on propose un autre système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire et qui cherche à répondre à ces questions-là. Alors, peut-être déjà pour commencer, on peut expliquer comment fonctionne le jugement majoritaire. Alors pour ça, il faut comprendre qu'on va, au sein du jugement majoritaire, donner une note sous la forme d'une mention qui va être très bien, assez bien, passable, insuffisant, voire à rejeter à chaque candidat. Et le candidat élu, ce sera le candidat qui aura la meilleure mention majoritaire. Et ça, c'est assez intéressant parce que maintenant, vous êtes dans un système où vous n'avez plus besoin de voter utile, vous n'avez plus besoin de faire une stratégie de vote. Alors, voter utile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, là, dans l'élection présidentielle, si j'ai une opinion un petit peu à gauche, par exemple, je vais sûrement hésiter entre Mélenchon ou Jadot, et je vais regarder au niveau des sondages, et je vais dire que Jadot a peu de chances de passer au second tour, donc du coup, je vais reporter ma voix sur Mélenchon. Mais du coup, finalement, ma voix ne m'appartient plus tant que ça, puisque peut-être que je vais être en désaccord avec beaucoup d'idées de Mélenchon, mais je vais faire confiance au sondage pour voter. Et le vote utile, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça a des conséquences assez nuisibles sur toute notre manière de voter, parce que dès qu'on est un candidat mineur, en fait, on ne va plus forcément exister. Le vote va se concentrer sur uniquement quelques candidats qui ont une probabilité de passer au second tour, mais on va sous-représenter tous les autres problèmes. Et donc, si jamais vous êtes dans une partie de la population qui est, on va dire, les jeunes, par exemple, les politiciens viennent moins leur parler, et cette sous-représentation, parce que le système de vote te force à voter utile, ça fait que tu vas être complètement ignoré du paysage politique. Voilà, c'est déjà un premier élément de réponse.
Avec votre proposition du jugement majoritaire, quel rôle donnez-vous à l'électeur?
Alors, le rôle, en fait, on inverse un peu tout le système. Pour l'instant, on est dans l'électeur, c'est quelqu'un qui va regarder les sondages et qui va, en fonction des sondages, essayer de voter pour un candidat ou pour un autre. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est laisser le candidat pouvoir s'exprimer. Un candidat, il n'a pas une pensée qui est binaire. Il n'est pas oui ou non. Il n'est pas OK, ce candidat, vraiment, il y a toutes les idées qui me plaisent chez lui, toute sa vision, tout le personnage me plaise. C'est jamais ça. Il y a toujours un petit peu quelque chose qui ne vous plaît pas chez ce candidat-là, mais par contre, chez un autre candidat, il y a quelque chose qui vous plaît. Et pouvoir mettre un peu de nuance dans son opinion politique, c'est très important. Et maintenant, avec le jugement majoritaire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce que je peux mettre une mention très bien à tel candidat, et puis un autre candidat qui lui ressemble, je vais lui mettre une mention bien, et enfin, d'autres candidats que je n'aime pas du tout, je vais pouvoir leur mettre des mentions à rejeter.
Lors de la dernière élection présidentielle, il y a eu 4 millions de votes nuls et blancs qui n'ont pas été pris en compte. Pourquoi on appelle ça vote blanc? Qu'est-ce que ça reflète, le vote blanc? Devrait-il se comptabiliser?
C'est aussi une très bonne question. Aujourd'hui, on est un peu sur le système. Ok, il y a une partie de la population qui ne s'intéresse plus à la politique. Alors déjà, c'est essentiel de s'attaquer à l'abstention parce que le président, il est censé représenter l'ensemble des Français. Si on a plus de 50% d'abstention, finalement, son vote ne veut plus rien dire. C'est plus une majorité qui a le pouvoir, c'est juste une petite minorité de personnes qui ont voté pour lui. Donc ça pose déjà une question fondamentale. Et ensuite, il faut essayer de se demander mais pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent plus à la politique? Parce que la politique, ça va quand même toucher vraiment notre quotidien. Ça va décider nos routes, ça va décider nos écoles, ça va décider de notre futur, de nos retraites. Bref, c'est quand même des questions qui vont nous concerner entièrement. Et du coup, si jamais on s'intéresse plus à la politique, il faut peut-être essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe au sein de la politique. Et l'une des conséquences, par exemple, c'est le fait qu'on va voter utile ou qu'un candidat, il a tout intérêt en fait à devoir passer juste la barre des 20% pour pouvoir passer au second tour. Ça a des conséquences qui sont un peu inimaginables, qui font, par exemple, entre Jadot et Mélenchon, mais on a aussi à l'extrême droite, entre Zemmour et Marine Le Pen, ces deux couples de candidats, en fait, ont à peu près les mêmes idées. Ils sont très proches sur beaucoup de points, et plutôt que de s'entraider, ils sont en train d'essayer de se lancer des piques et des piques et des piques pour réussir à gagner leur électorat face à l'autre, alors qu'ils devraient s'allier. Et du coup, nous, quand on est électeur, on est en train de s'apercevoir que finalement, il a lancé une pique, ça ressemble à un jeu de tennis, ça ressemble plus à un débat. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de se polariser, c'est que nos politiciens sont que en train de rebaisser l'autre politicien, et tout ça, ça ressemble pas à un débat sérieux, ça ressemble plus à une espèce de cirque, une espèce de foire. Donc en fait, le problème, il est là, c'est que la manière dont on vit les débats démocratiques, mais ils ont rien de démocratique. Et tout ça, c'est lié, en fait, à notre mode de scrutin.
Aujourd'hui, la démocratie est réduite à un vote tous les 5 ans. quel autre moyen pourrait intéresser aux jeunes pour participer à la vie politique?
Là, il y a pas mal de solutions pour ça. Il faut déjà se rendre compte que la démocratie, c'est un système qui a en fait déjà plusieurs millénaires. Donc, il y a plein d'expérimentations dans les sociétés humaines pour essayer de donner un peu de pouvoir et essayer de trouver un consensus, trouver des méthodes pour faire qu'une solution convienne à l'ensemble de la population. Effectivement, pouvoir demander l'avis à la population de manière plus régulière, bah, ça paraît assez intéressant. Et en même temps, de l'autre côté, on a eu des expériences de référendum qui ne sont pas très bien produites. Alors, un exemple, c'est celui du Brexit. Alors, je dis que ça ne s'est pas très bien passé parce que les sondages ont révélé que si jamais le Brexit s'était fait quelques mois avant ou quelques mois après, l'issue de ce scrutin aurait été différente. Et sur une question aussi importante de est-ce que le Royaume-Uni doit rester dans l'Union européenne ou pas, on ne peut pas se permettre de prendre autant de risques. Et du coup, au sein de l'association Mieux Voter, nous, on a proposé le préférendum, c'est-à-dire un référendum par préférence. Et au sein de ce référendum, en fait, on va venir demander à l'électeur quel est son avis sur chaque proposition. Donc concrètement, sur le Brexit, on peut demander à l'électeur quel est son avis par rapport à un hard Brexit, par rapport à un soft Brexit. Et comme ça, le politicien, il a tout à gagner là-dedans parce qu'il a directement une feuille de route, une stratégie à mettre en œuvre pour le reste de son mandat. On a aussi d'autres exemples de démocratie plus participative. On a aussi l'exemple des budgets participatifs. Alors, un budget participatif, c'est une ville qui a un budget à allouer pour l'investissement et elle ne sait pas forcément où est-ce que cet investissement doit être mis. Et une bonne idée, c'est de se dire, OK, c'est la population qui a besoin de ces investissements, donc c'est elle la mieux placée pour dire, nous, dans nos gymnases, par exemple, les infrastructures sont ultra vieillottes, on n'arrive plus à jouer au basket, le panier est cassé, et on sait exactement quel est notre besoin. Donc, il faut juste que la ville puisse écouter et savoir quel est le meilleur besoin. Et le risque là-dessus, c'est que si on ne mesure pas le rejet, on risque d'avoir des propositions qui vont faire plaisir à une partie de la population, mais une autre partie de la population trouve cette idée très mauvaise. Et ça va décrédibiliser tout le processus démocratique. Et du coup, nous, ce qu'on a fait au sein de l'association Mieux Voter, c'est qu'on a aidé la ville de Paris, donc qui est un peu la ville pionnière des budgets participatifs, à mettre en place le jugement majoritaire dans leur processus démocratique. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est très puissante.
Tout à fait. En tout cas, merci Monsieur Gourd pour toutes ces précisions. En tout cas, c'était très riche, très passionnant. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question des enfants par hasard? Ah, il y en a une.
À un moment, vous avez parlé de la gauche et de l'extrême droite, mais vous avez parlé de Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon et l'autre, là, j'ai oublié son nom.
Jadot,
Monsieur Jadot. Et vous n'avez pas parlé de Macron.
Oui, complètement. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que actuellement, sur Macron, il y a plusieurs affaires. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi par rapport au cabinet de conseil et McKinsey. Il y a plusieurs choses qui vont un peu nous dégoûter de ce politicien parce qu'il a pas mal de casseroles en ce moment. On a envie de le pénaliser. Et par contre, si jamais notre opinion politique, elle se retrouve dans le vote de Macron, on va dire un peu une espèce de centre-droite, on est obligé de voter pour lui parce que c'est le seul représentant. Mais on ne peut pas essayer de dire, attendez, OK, j'ai quand même voté parce que ses idées, sa vision ressemblent un petit peu, et j'ai quand même envie un peu de le pénaliser. Et ça, on peut le faire avec le jugement majoritaire parce que finalement, je ne vais pas lui mettre excellent. OK, peut-être qu'il correspond à mes idées, donc du coup, ses idées me vont, mais la manière dont il les met en œuvre, non, ça ne me va pas. Et donc du coup, plutôt que de lui mettre excellent, j'aurais préféré lui mettre peut-être une mention bien, une mention assez bien pour pouvoir pouvoir exprimer tout simplement le fait que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il agit.
Ok, on va faire une petite pause musicale avec le rappeur Axiom, Ma Lettre au Président. Et nous retrouvons après, restez avec nous Monsieur Gourd. À tout de suite.
Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à votre fonction, je vous demanderai un peu d'attention. Je me présente à vous en tant que citoyen, sain de corps et d'esprit, en pleine possession de mes moyens. Alors où je vous parle, dans le pays, le couvre-feu résonne, je fais appel à l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Sans étiquette, je ne jugerai que vos actes d'avance, veuillez recevoir mes excuses les plus plates. Monsieur le Président, je vous fais part de ma grande indignation face aux événements, comprenez ma position. Je suis français et grandi dans les quartiers populaires, mes grands-parents ont défendu la France pendant dans la guerre. Mes parents eux aussi l'ont construite cette république. Rappelez-vous ces ouvriers qu'on a fait venir d'Afrique. et leurs enfants ignorés par le droit du sol. Citoyens de seconde zone, de la naissance à l'école. J'accuse 30 ans de racisme et d'ignorance, la répression sans prévention en France. J'accuse votre politique, vos méthodes archaïques, la centralisation, la défense unique de la loi du fric. Au lieu de rassembler, car tous français, vous n'avez fait que diviser, laissant l'extrême droite avancer. Monsieur le Président, ne le prenez pas comme une offense, mais moi aussi je crois en la démocratie de France. Je crois en la République, la vraie, car c'est le rêve du peuple et des opprimés. Colonisation, chômage et précarité ont engendré violence, inégalité. La discrimination à l'embauche, à l'emploi, cela va sans dire, provoque la fuite des cerveaux, laisse une jeunesse sans avenir. Est-ce un hasard si votre ministre est de l'extrême droite? Ces gens qui auraient livré la France sans jamais combattre. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. Dans les rues, la 6ème République vient de naître. Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Je me présente à vous pacifiquement.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Ma lettre au Président.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Peut-être ferez-vous preuve de compréhension.
Lier et relier, l'émission pour se reconnecter aux autres.
C'était Axiom avec la chanson Ma lettre au Président. Nous sommes de retour dans Lier et relier, une émission du Média Les Défricheurs, en direct depuis le quartier Neuf à Strasbourg, pour une émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Les jeunes ont la parole. Et justement, nous avons préparé un petit quiz ludique sur les élections en France. Est-ce que vous êtes prêts, les jeunes, à trouver les réponses? Première question. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles?
En mai?
Non.
Ou en avril?
Ah oui, en avril. Mais quelle date précisément? Le 10, le 23 ou le 30?
Le 23.
Ah,
je sais pas. Le 10?
Le 10, c'est le premier tour et le 23, c'est le second tour. Exactement. Deuxième question. En France, combien de temps dure le mandat présidentiel? 5 ans, 7 ans ou 4 ans?
Ça dure 5 ans.
Exactement. Est-ce que vous saviez que au départ, ça durait 7 ans?
Non, je savais pas.
Et en fait, c'est sous Jacques Chirac qu'on est passé à 5. Voilà. Combien de candidats il y a eu cette année pour la présidence 2022? 12, 10 ou 13?
10.
Oui, 12, exactement. Alors, petite question bonus. Savez-vous combien il y a d'hommes et de femmes qui sont candidats?
4 femmes.
Oui, bravo. Et combien d'hommes, du coup?
5. Non, 6.
8, exactement. 8 hommes, 4 femmes. Question suivante. En France, une élection peut-elle être annulée?
Je crois.
Exactement. Savez-vous dans quelles circonstances elle peut être annulée?
S'il y a une personne qui est malade. Ou des problèmes
plus
de santé.
Plus que malade.
Elle décède.
Exactement. C'est la seule condition pour annuler l'élection présidentielle. Dernière question. En France, le vote blanc est-il comptabilisé?
Oui. Ah non, attends. Ah non, non.
Bah non, il n'est pas comptabilisé.
J'avais mal compris.
Malheureusement, on leur donne pas, voilà, ils n'ont pas de reconnaissance. Très bien, merci beaucoup.
Lier et relier, l'émission pour se reconnecter aux autres.
Vous êtes toujours dans Lier et relier. Nous sommes toujours en direct du collège Stockfeld à Neuhof.
Parmi nos invités, nous avons le plaisir d'accueillir Morgan Egerton et Cyril Trebosc de l'association ALDA Europe.
Merci beaucoup, bonjour.
Vous êtes membre de l'Association européenne pour la démocratie locale, mieux connue comme ALDA, qui favorise la participation citoyenne et la démocratie à l'échelle locale. Quelle définition pourriez-vous me donner de la participation citoyenne qui est au cœur de votre mission?
Oui, alors quand on parle de participation citoyenne, d'un côté il y a le citoyen et de l'autre il y a aussi l'institution, celle qui va entre guillemets récolter l'avis citoyen. Notamment pour les citoyens, le but c'est de faciliter l'expression, l'information, mais aussi l'engagement sur différentes thématiques qui vont impacter leur vie au quotidien. Donc en fait c'est plus ou moins participer activement à la vie du territoire. Et puis de l'autre côté on a aussi les institutions qui elles ont ce rôle en fait d'écouter et d'être ouvertes en fait à la vie citoyen et surtout d'instituer en fait toutes les demandes qui peuvent être faites par les citoyens tout simplement.
L'ALDA aujourd'hui c'est un réseau qui fait des actions dans divers pays et en France concrètement comment vit-on la démocratie citoyenne? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples?
Alors, il y a différentes manières, différentes façons et surtout plusieurs échelles en France de vivre, comme on dit, la démocratie locale. On peut le remarquer dernièrement au niveau, par exemple, national, où il y a eu beaucoup, entre guillemets, de consultations citoyennes. Je pense au Grand Débat ou en 2019 ou encore à la Convention citoyenne pour le climat. Mais surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, l'idée que... qu'en fait la participation citoyenne émane forcément des grosses institutions, de l'État, du ministère, est fausse. En fait, cette notion de participation citoyenne, en fait, elle se décentralise. Elle vient aussi parfois des citoyens directement qui s'organisent entre eux et qui proposent en fait de se faire écouter. par exemple, la consultation qui a eu lieu par la collectivité européenne de l'Alsace, où en fait la question était de savoir si l'Alsace souhaitait sortir ou pas de la région Grand Est. C'est déjà un exemple pour montrer qu'en fait toutes sortes d'institutions, qu'elles soient au niveau local, régional ou même départemental, peuvent instituer ces demandes et peuvent récolter l'avis citoyen. Un deuxième point qui est important, c'est savoir comment, une fois que l'avis citoyen a été donné, pouvoir instituer ces demandes et comment les citoyens peuvent se saisir de cet outil aussi, parce que c'est assez mal connu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'engagent, qui savent en fait comment faire pour, entre guillemets, se faire entendre.
Parmi tous les droits des citoyens, les droits de vote, à ton avis, quelle place occupent dans une société démocratique ?
Pour l'ALDA, le droit de vote devrait avoir une importance de premier plan dans une société démocratique parce que ça fait partie, c'est l'une des bases du principe démocratique. Donc pour l'ALDA, on peut intervenir sur deux niveaux. D'abord au niveau de la sensibilisation, pour remontrer l'importance et l'impact au niveau local des élections. Et ensuite, aussi permettre d'autres actions qui permettent aux citoyens d'avoir un accès plus direct à leurs représentants locaux et nationaux que par les conventions citoyennes locales et par les réseaux sociaux, par exemple.
Et la jeunesse dans tout ça, et comment les inciter à participer plus pour la ville ?
Je pense que pour la participation de la jeunesse, il y a déjà une sensibilisation qui doit se faire très tôt. Et on l'a déjà un petit peu en France avec l'élection des délégués, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer sur le long terme et permettre aux jeunes donner une place aux jeunes plus importante dans les décisions, notamment au niveau local. Pour ça, il faut prendre en compte le fait que les jeunes sont actifs au niveau associatif, notamment au travers des associations de leur université. Donc, ce serait plus les mettre sur des sujets de démocratie proches sur lesquels ils pourraient s'investir et leur donner les outils pour s'investir à ce niveau-là, leur faire comprendre qu'ils ont leur place et qu'ils peuvent avoir un impact à ce niveau-là. Avec la digitalisation, c'est plus facile d'encourager justement cette participation parce qu'on a des moyens plus directs d'investir les citoyens. On peut mettre les gens en contact directement avec leurs autorités. Donc ça passerait par les pages Facebook et Instagram, de faire des chats en live avec les représentants locaux et d'améliorer l'accès aux décisions municipales au niveau local. Et aussi le budget participatif qui permet aux citoyens de décider directement à quoi est destinée une partie du budget de la localité. Et aussi les conventions citoyennes locales. Il y en a une récemment à Strasbourg sur l'Europe. C'est quelque chose qui montre que les citoyens, si on leur pose la question, ils sont intéressés et ils sont prêts à s'investir sur les questions. Il faut juste leur poser la question et leur donner un lieu de parole.
Et donc, tu dirais qu'il n'y a pas une âge précise pour s'engager ?
Je pense que non. On a des associations qui tentent justement d'inclure les enfants dès le plus jeune âge. Les Lieux d'Europe, par exemple, à Strasbourg, ça permet, ils organisent plein d'activités à destination des jeunes enfants même pour leur montrer l'impact local des mesures européennes et comment eux, en tant que citoyens européens, peuvent s'investir à leur échelle.
Moi, je dirais même que c'est essentiel en fait de les sensibiliser dès le plus jeune âge pour comprendre en fait un petit peu plus ce mécanisme de démocratie et comment ça fonctionne pour qu'ils puissent après entre guillemets le reproduire et comprendre un petit peu mieux et donner plus de sens en fait à leur vote une fois que les présidentielles ou même les législatives arrivent plus tard quoi.
Concrètement, quels outils utilisez-vous pour sensibiliser à la participation citoyenne en direction d'un public jeune?
Oui, alors au niveau des outils, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on travaille sur un projet européen qui s'appelle Jamin. Le but est surtout de promouvoir tout ce qui est éducation interculturelle, mais aussi inclusion sociale et citoyenneté active. Donc on le fait en fait à travers un jeu qui est en fait basé sur le principe de Trivial Pursuit. Donc le Trivial Pursuit, c'est vraiment des questions de culture générale. Mais cette fois-ci, on l'a un peu remodifié sous l'angle des valeurs européennes pour pouvoir parler d'inclusion, pour pouvoir parler aussi de culture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours ce petit objectif de gagner. Donc c'est plutôt cool, c'est méthodique, c'est ludique. Et ça leur permet aussi d'en apprendre un petit peu plus sur l'Europe, sur la construction et quelles sont les différentes valeurs que les États membres peuvent partager. En tout cas,
tu as une adresse mail ?
Une adresse mail,
Les gens peuvent te contacter ?
Pour l'adresse mail, ça sera www.jamin.eu. Voilà.
Donc, et c'est gratuit.
C'est totalement gratuit et on le met vraiment à disposition de toute structure qui pense avoir besoin de ce type d'outil.
Génial. Mais merci beaucoup alors.
Merci à vous.
Et nous voici de retour. Merci à Araceli pour l'interview de Morgane et Cyrielle de l'ALDA. Tout de suite, nous retrouvons l'agenda des acteurs du NUOF et d'ailleurs. La RESU organise une marche ramassage de déchets en équipe dans le quartier du NUOF le 20 avril à partir de 14h. Inscription obligatoire. La médiathèque du NUOF organise le samedi 30 avril une conférence balade historique du NUOF pour les 12 ans et plus. Sur inscription là également à partir du 16 avril. Pour les passionnés de la musique pop, blues et funk, l'espace Django accueille les groupes La Davina et Lolomis le vendredi 8 avril à 20h30 et les groupes Mojo Sapiens et Kepa le 14 avril. Enfin, vous avez envie de vous investir dans la vie de votre quartier, vous pouvez participer à la prochaine assemblée du NUOF le jeudi 28 avril de 18h30 à 20h30 à la salle du manège, rue de Solignac.
Lié et relié, l'émission pour se reconnecter aux autres.
Avec ces suggestions de sortie, notre émission touche déjà à sa fin. Est-ce que Lina, aurais-tu par exemple un dernier message à faire passer aux jeunes qui vont voter pour la première fois ?
Déjà, de refuser de faire un vote utile, on en a beaucoup parlé, mais vraiment, le vote utile, même quand on est jeune électeur, on tombe dedans. Je suis tombée dedans aussi. Mais c'est quelque chose qu'on doit se permettre de refuser. On doit se dire, OK, tel candidat a plus de chances de passer que tel autre, c'est sûr. Mais en fait, si on a envie de voter pour un petit candidat, ça compte. Et ça compte pour une raison très simple. C'est qu'un candidat qui atteint 5% de vote à la présidentielle, ça lui permet de rembourser ses frais de campagne. Donc, si vous aimez bien un petit candidat, votez pour lui parce que ça compte aussi.
Et vous, Monsieur Gure, un mot pour les jeunes électeurs qui vont voter pour la première fois ?
Oui, complètement. Alors, je pense que le mot que je voudrais dire, c'est que faut bien comprendre que la politique, ça va toucher vos problèmes du quotidien. On a envie de vouloir juste se déconnecter parce que ça a l'air d'une foire, ça n'a pas l'air sérieux, ça n'a pas l'air très intéressant. En fait, si, c'est vraiment crucial, c'est ce qui va décider toute votre vie, à part si vous voulez vivre de manière très isolée au fond de la forêt, sinon votre vie est influencée par vos choix politiques. Et ça, il faut bien le garder en tête, c'est très important.
Il nous reste plus qu'à remercier l'équipe du collège Stockfeld qui nous a permis de réaliser cette émission au sein de leur établissement. Je vais remercier nos trois journalistes du jour, Hachem, Younes, Anneli, vous êtes prêtés au jeu, bravo, pour les applaudir.
Merci.
Nous pouvons également remercier Madame Livet, la principale, Madame Morgenthaler, la principale adjointe, Madame Couvreur, la gestionnaire, et tout particulièrement Madame Lecoustet, professeure d'histoire-géographie, Madame Gutnecht, professeur documentaliste, et toute la classe de 4e K. Mille merci à vous tous, et on peut vous applaudir, et vous pouvez vous applaudir. Nous remercions également nos partenaires qui ont participé à l'organisation de cette émission de radio, comme la Fondation Batigère et l'Eurométropole de Strasbourg pour leur soutien financier. Merci également à tous nos invités de l'émission. On les applaudit également pour leurs initiatives. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Lié et Relié par les médias Les Défricheurs.
Info, musique, dédicace, coup de cœur, témoignages, sorties, découvertes et plus.